Bonjour, ici Louis pour Erdiwa. Aujourd'hui, avec Luc Boussard, éditeur, moine zen et accessoirement président de Erdiwa, nous avons le plaisir d'accueillir le moine zen et écrivain d'origine américaine, Philippe Coupet. Nous essaierons de ne pas nous lancer dans de vastes considérations sur les mérites du bouddhisme, comparés à d'autres pratiques, ni à des conseils pratiques pour parvenir à l'éveil. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment concilier pratique spirituelle et engagement social. Car c'est un euphémisme de dire que le monde ne va pas très bien. Ces dernières semaines en France ont été marquées par des grands mouvements sociaux. Donc je voudrais savoir comment un moine zen se situe devant cette problématique des mouvements sociaux. Bonjour.
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 Alors comment te situes-tu par rapport à ces mouvements sociaux ?
Je ne me situe pas du tout. Ah, je ne fais pas de séparation. Alors il n'y a pas besoin de que je me situe à quoi que ce soit. Ça c'est quand tu parles de social, la situation sociale. C'est un point de vue qui n'est pas le mien. Ah, qu'on doit faire quelque chose contre quelque chose. C'est certainement nécessaire qu'ils le font, chacun fait son travail. Mais pour moi, ce n'est pas une chose contre une autre. Je suis pour le social, totalement. Je suis le social. Mais je ne suis pas dans les démonstrations du social. Et ce n'est pas mon travail. Et c'est pas ça que... Moi, je peux pas aider le terre entière, c'est ça qui m'intéresse. Je ne peux pas l'aider en faisant des démonstrations. Je fais autre chose qui aide énormément, mais dans le monde invisible, mais c'est social, à la fin. Pour moi, il n'y a pas de différence.
Tu serais plus dans le paradigme, au lieu de changer le monde, tu essaies de te changer.
Voilà, en changeant moi, tout le monde change. Tout le monde change, tout le temps. Dans le sens de s'ils sont avec quelqu'un qui se change positivement, ils changent positivement, si on peut dire positivement. Si c'est quelqu'un qui devient mauvais, et les autres vont devenir mauvais. Et voilà un énorme travail social.
Il y a beaucoup de gens qui mettent des doutes sur des bouddhistes qui seraient enfermés dans des monastères et on se demande à quoi ils servent.
Et puis moi aussi, qu'est-ce qui sert ? Qu'est-ce qui fait un moine là-dedans ? Hein, et c'est parce qu'il avait besoin d'un toit et de bouffer quelque part. La plupart, hein, c'est pas des fils de riches, c'est des fils de paysans. Et c'était toujours comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils font là-dedans, hein, s'ils font zazen, la méditation, au-delà de la méditation, ok, mais c'est pas vraiment ça. Ils font plein de cérémonies, ils se font loger et nourrir.
Ça veut dire que toi, tu es impliqué dans la vie sociale, quoi. Tu n'es pas...
Oui, la différence, c'est qu'eux, ils créent le social. Parce qu'ils vont en dehors du social. Il n'y a pas un en dehors du social. Moi, je ne vais pas dans un monastère. Ça ne m'intéresse aucunement. Alors, je suis où? Je suis dans le monastère, si je pratique, mais je suis toujours dans le social.
Il y a des gens qui trouvent que la colère, de temps en temps, est légitime. Par exemple, nous sommes en face d'un système injuste.
Oui.
Et qu'il est normal d'éprouver de la colère contre un système qui oppresse l'homme. Or, dans le bouddhisme, la colère, c'est quelque chose qui nous empêche de pacifier l'esprit.
Je viens de dire, je suis dans le social, je me mets en colère. Et j'espère, et les autres, ils se mettent en colère. Et quand j'écoute la radio, c'est ceux qui se mettent en colère. Mais comment se mettre en colère? Il faut savoir comment. Alors, le zen, c'est aussi la pratique de votre comportement, naturellement et automatiquement. Et on se met en colère sans crier. Mais la colère, on le sent. Ceux qui crient, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais ceux qui tapent la table et qui parlent de leur tripe, eh bien, en colère, eh bien, très bien.
Donc la colère est une force motrice, alors?
Oui, oui. Bon, la colère, c'est nécessaire. Parce qu'il y avait raison d'avoir une colère. Tout ça, c'est passé, ce politique-là, c'est du pragmatisme. C'est ça leur direction. Et bien sûr qu'ils se fâchent. Bien sûr.
Oui, mais justement, peut-être que cette colère qui obscurcit le jugement, si on l'enlevait, peut-être qu'on pourrait plus facilement s'asseoir à la table des négociations entre plusieurs parties. Ce qui est un problème en France, c'est qu'on ne sait pas négocier. Il y a des gens qui sont radicalement contre d'autres gens et ils ne peuvent plus se parler. Donc si on arrêtait d'être en colère, peut-être pourrait-on parler.
Oui, mais c'est encore autre chose, ça. Moi, je parlais de la colère comme les trains qui emballaient tous ces déchets atomiques. Ils se mettent en colère. Ça, c'est une colère. Mais quand tu es à table ronde, Ah non, alors là, il faut savoir avoir une colère qui est là, qui se sent, mais qui n'est pas un voix agressif du tout, du tout. Et toujours se mettre en question quand on prend une position, de toujours savoir l'autre position et de le respecter. Si on ne respecte pas l'autre, on ne respecte pas soi-même. Alors, celui-là est de l'extrême droite. C'est intéressant de les écouter. Ils disent des choses très intéressantes. À l'extrême gauche aussi. Et prendre eux en considération quand ils vous parlent. Soyez eux. Comme ça, il n'y a pas de dualité.
Justement, dans le zen, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux.
Ouais.
Donc, il n'y a pas de choix.
C'est ça.
Comment se situer sur l'échiquier politique? Comment avoir une opinion? D'ailleurs, justement, y a-t-il à avoir des opinions sur ce qui se passe?
C'est pas une question d'opinion. C'est une question de vision. Notre vision qui vient à travers nous et notre méditation, si on peut dire. Et ça donne une vision, une opinion. C'est juste un côté encore contre un autre. Pour moi, c'est pas une question d'opinion. Les questions d'opinion, c'est basé sur quoi? C'est basé sur comment. Je crois qu'une opinion, c'est à penser, à avancer les choses. Une opinion, c'est quoi une opinion?
Ça vient peut-être de mon éducation, ça vient peut-être de ce
Bon,
que j'ai lu, ça vient peut-être de ce que j'ai réfléchi, mais effectivement, je ne sais pas d'où elle vient, cette opinion.
ok, mais le but d'une opinion dans un groupement de personnes politiques ou autres, c'est faire des projets. Et si c'est ça, c'est pour moi pas important de faire des projets. Ça, c'est la politique d'un côté ou d'un autre. C'est pas ça pour moi. Faire des projets, quoi, pendant 5 ans, 10 ans, mais c'est pas intéressant. C'est avoir une vision. C'est autre chose. Avoir une vision de le monde. De le monde et d'autrui. Mais vous êtes obligé de jouer le jeu d'opinion. Mais sachez que c'est quand on demande votre opinion dans une situation comme ça. Parlez opinion. Mais sachez bien que ça ne va pas loin, l'opinion, et ça ne va pas loin non plus, le politique qui se base sur des projets dans le futur. Ça ne va pas loin, ça. Oui, on peut finalement créer un projet de créer une bombe atomique, on arrive, oui. Quels projets sont vraiment bons? Peut-être il y en a eu, mais.
Tout projet complexe qui va dans le temps oublie l'instant présent, c'est ça que je crois.
C'est une certaine façon de le dire. Je me méfie des fois de cette expression ici et maintenant, parce que tout le monde s'en sert maintenant. Et c'est quelque chose que je trouve. À vraiment affaiblir le concept d'ici maintenant. Mais je suis d'accord avec comment vous avez fait le résumé de ce que j'ai dit.
Je te remercie d'avoir amené ce distinguo énorme entre effectivement une vision à long terme, une vraie vision intégrant sans
Oui.
doute l'être humain au centre des
Non.
préoccupations, plutôt que d'avoir des petits projets
Oui.
colmatants, mettant des
Oui.
rustines sur
Oui.
des trucs a posteriori sans vraiment traiter le problème à bras-le-corps. C'est évident. J'aimerais bien revenir sur l'histoire du choix quand même, parce que dans le bouddhisme zen en particulier, il n'y a pas de juste et de faux, mais c'est quand même un peu difficile à vivre quand même, parce que il y a tous les jours, j'ai des choix à faire, tous les jours, je dois choisir si ça est bon ou ça est mauvais. Si j'accepte tout, une paralysie peut me saisir, parce que tout est vrai et réciproquement, et je ne sais pas comment me situer en fait.
Dans vos travails, vous avez des choix sur des détails, sur des petits phénomènes. Il faut le faire. Hein, le travail, c'est le travail. Ah, mais profondément, on n'a pas de choix. Profondément. Et c'est ça à savoir aussi, qui nous libère de l'idée que je dois y aller à gauche ou à droite, ou au milieu. Ce n'est pas une question, comme tu viens de dire, de ni l'un ni l'autre, mais le choix. On n'a pas le choix. Pour le dire différemment, quand on ne pense plus avec le frontal, on pense avec l'hypothalamus, on pense avec les tripes, on pense avec la hara, inconsciemment bien sûr, Et puisqu'on est libéré de tout ce ces mots dans la tête, on réalise qu'il n'y a pas de choix parce que c'est le corps qui t'amène. Et il va t'amener dans la bonne direction si tu n'entres pas dans les choix, sur le niveau profond. Sur l'autre niveau, oui, ok, on choisit. Et est-ce que vraiment on choisit, même sur le petit niveau? Je veux un café. Eh bien, est-ce que j'ai vraiment choisi que je veux un café? Est-ce que j'ai choisi vraiment? Je ne pense que même pas. Je pense que même pas. Et le résultat, c'est que quand on est dans des situations sociales, on fonctionne naturellement, automatiquement, sans trop réfléchir. Un peu, quand même.
Mais dans la vie de tous les jours, dans ma vie à moi, celle qui me concerne, je peux faire des choix de temps en temps entre ce que je sais être bon et pas bon. Je prends une référence avec une penseuse chrétienne, Simone Veil, la première, qui était une juive qui est morte dans un camp de concentration.
Elle est morte.
C'est pas Simone Veil qui a fait la loi, c'est une autre Simone Veil qui est morte dans un camp de concentration.
D'accord.
Et donc, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « La pesanteur et la grâce » et elle décrit une notion très décriée de nos jours qu'on appelle le péché. Et elle dit que le péché, c'est la compensation. C'est-à-dire que voilà, je suis tendu, je suis énervé, au lieu de lutter, je vais compenser. Je vais prendre du chocolat ou je vais prendre deux petits verres de vin et puis je vais compenser. Donc, est-ce que je suis ma pente, je compense à chaque fois que je suis tendu, ou est-ce que je lutte un petit peu en me disant « oui, je sais que c'est facile, mais c'est pas ça qui va régler le problème ».
Pour l'homme évolué ou le sage, c'est du pipeau tout ça. Hein? C'est pas « oh, je vais manger du chocolat maintenant pour que je me soulage hein, d'un problème, ou en whisky, disons, pour me soulager ah. ». Non, c'est beaucoup mieux que ça.
Alors,
c'est pas déchiré, péché, et on appelle ça un péché quand on va boire le whisky. Mais c'est quoi le péché hein, on peut penser là-dedans. Mais parlons de le fait que, encore une fois, on boit le whisky, on est conscient qu'on boit le whisky, on ne va pas trop boire de whisky. Pourquoi? Parce que c'est... être à quatre pattes, c'est bien stupide. C'est bien stupide. Et on boit, et on n'a même pas choisi. On n'a pas choisi. Alors, tu ne devais pas être en aucune dualité. Et quand tu dis, mais je comprends que tu dis, je dois choisir, je dois faire quelque chose où je ne suis pas d'accord. Ok, mais c'est quoi ça? C'est peut-être parce que tu travailles sur la radio et tu dois prendre en considération ce que c'est qu'en radio et le public. C'est ça, par exemple. Alors, tu ne peux pas faire ce que tu as vraiment envie de faire parce que tu dois choisir avec le public, c'est ça?
Non, si je suis ma pente, si je ne choisis pas et si je me laisse aller, je veux dire, si je ne lutte pas contre certaines tendances, je peux avoir des pratiques autodestructrices qui ne m'amènent pas à être au meilleur de moi-même. Donc, je m'affaiblis et donc je n'ai plus l'esprit clair et donc ça va à volo. Voilà,
c'est oui, bien sûr, mais si on va passer... ses désirs personnels, c'est-à-dire, c'est, par exemple, ses plaisirs, non, c'est nul, ça. C'est pas ça de quoi je parle. Je parle de le corps qui amène l'esprit. Toi, tu parles de l'esprit qui amène le corps. C'est pas ça, l'homme évolué, disons. L'homme spirituel, oui, spirituel. L'homme sage. Hein. Il n'a pas ces problèmes-là. Il boit quand il boit. Il n'a pas choisi. C'est pas ce niveau-là où on doit ou on ne doit pas. On doit ou on ne doit pas, ça dépend quoi de ta religion, de ta culture. Ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est tout ça, c'est des préfabrications. Tout. Ma culture, ma religion, mes préceptes. C'est préfabriqué, c'est imaginé.
Enfin, je ne sais pas, mais par exemple, dans une autre tradition spirituelle, Vipassana, on dit que quelqu'un, il n'est pas accro à quelque chose, il n'est pas accro à la drogue, il n'est pas accro au whisky, il est accro à la sensation que cela procure. Et s'il joue le jeu des sensations, il va y revenir et ce sera pire que lui. Alors évidemment, c'est le corps qui va en vouloir, parce qu'il va avoir sa dose, il est accro aux sensations. Il y a malgré tout peut-être éventuellement un combat pour se libérer de cette tyrannie du corps, peut-être.
C'est pas mal, c'est intéressant, c'est vrai. Mais quand même, si on vend le corps comme un tire-bouchon, hein, tout foutu, quoi, et bien sûr, on ne peut pas suivre ça. Il faut d'abord qu'on pratique zen, hein, ou vipassana, hein, et qu'on sait s'asseoir, et on sait tenir la colonne vertébrale naturellement, et pas comme je vois dans le métro à Paris, mais les gens sont tous comme des tire ou ils ont leur nuque en tire-bouchon, ils ont leur dos voûté, et on ne suit pas ça. On suit le fait qu'il essaie de se mettre bien, naturellement, qui a la tête sur ses épaules et pas qui tombe parce qu'il a passé 20 ans ou 30 ans à lire des bouquins ou à coudre des habits, ou parce que sa tête est trop lourde, trop pleine de pensées. Penser, c'est très lourd. Et ça fait descendre la tête, ouah, en bas. Eh bien, tu fais les. Ouais, si tu ne suis pas ça. Tu suis le corps qui est le corps, le vrai corps humain. Le vrai corps humain est droit, la tête en haut, les pieds en bas, et les pieds, et on avance avec les pieds, et pas avec la tête. Et c'est ça. Et n'oublie pas, quand tu parles de vipassana, que je ne connais pas, ou disons d'autres méditations, et tu parles du zen, de méditation zen, peut-être il y a une différence d'approche dès le départ. Et je dis ça pour dire que je ne critique pas du tout le principe moraux, si j'ai bien compris, du vipassana. Nous, c'est notre morale. Le zen, et le zazen, comme nous l'avons reçu, moi et Luc, de Maître Deshimaru, pendant toute sa vie ici, en France, c'est la dernière étape, c'est la fin. Nous, on commence en haut de la montagne, le pic de la montagne. Vrai ou pas, je n'entre pas là-dedans. Eh oui, monsieur, ceux qui écoutent, il vient de tirer son œil. Vous n'êtes pas d'accord. Non, je dis ce qu'on dit. Je
D'accord.
dis ce qu'on dit.
N'est-ce pas de l'arrogance de dire que vous êtes au sommet de la montagne et que vous êtes au bout du chemin? Qui
Alors,
êtes-vous pour dire cela? Je ne sais pas si on le.
Moi, je suis quelqu'un qui pratique depuis 30 ou 40 ans. J'enseigne, j'ai des disciples un peu partout. Et je suis moine et je dois m'exprimer. Ce n'est pas qui je suis moine. Je ne suis pas Philippe Coupé. Ça, oui. Qui suis-je? Quelle arrogance. Mais je parle en tant que moine. Et qu'on dit que c'est la fin. Et pourquoi c'est la fin? Il n'y a pas de. On ne suit pas les préceptes. Hein? Toi, tu suis les préceptes. Tu essayes. Ok, tu essayes de suivre les préceptes. Nous, on n'essaie pas de suivre les préceptes, parce qu'on les a tous suivis, et on les suit tous quand on est en zazen. Et alors c'est pour ça qu'on dit que c'est la fin de la montagne, c'est le haut de la montagne. On n'avance pas comme sur une échelle où on met les préceptes en ordre, et on choisit le bon contre le mauvais, et on ne fait pas ça, parce qu'on a déjà fait.
On retrouve ça dans Vipassana, dans les sensations. Ce n'est pas comme dans le zen, la posture qui chasse l'imposture. C'est le fait de s'asseoir et de faire circuler son attention le long de son corps et de voir que nous avons deux types de sensations, les agréables et les désagréables. Et on les regarde en toute équanimité, parce que quand Bouddha parle de misère, c'est ma misère personnelle et cette misère qui se traduit par des sensations physiques désagréables. Et en les regardant sans sourciller, on s'en libère. Donc on se libère aussi naturellement, mais ce n'est pas le but. On se libère aussi des addictions. Puisqu'on est capable de regarder ces sensations physiques, ma douleur, parce qu'on n'en a pas parlé dans le zen, je ne sais pas s'il y a un usage de la douleur ou du plaisir. En tout cas, on les regarde. Et on n'est pas accro. De même que le zen ne s'attache pas aux pensées, dans Vipassana, c'est au niveau du corps que ça se joue. C'est-à-dire mes sensations, je les regarde et je les laisse passer aussi. Et alors, tout ce qu'on a vécu est inscrit dans notre corps, c'est que ça se libère, en fait. Mes traumas qui sont logés dans le corps
Non, mais je peux te poser une question
Oui.
à ce sujet. Comment vous regardez un de les problèmes que tu as soulevés? Qui est en toi que tu t'en débarrasses.
En fait, il ne faut pas s'attacher aux pensées. Le penser, même chose, on laisse passer, hein, n'est-ce pas? Mais on fait circuler son attention de son corps, mon nez, tout partout, etc. Et il ne faut pas s'accrocher non plus. Il y a des fois, il y a des douleurs, par exemple au genou, au bas du dos, ça fait très mal. Bon. Alors, on ne recherche pas la douleur non plus, mais quelque part, elle reflue. parce qu'on n'en a pas peur. Il y a aussi les zones blanches, par exemple les zones du bras, et pendant longtemps, il ne se passait rien dans mon bras, c'était une zone blanche. Ouais. Et donc le fait de les regarder sans réagir, on se libère à la fois de l'avidité et de l'aversion, mais c'est du concret, c'est du physique, c'était pas du mental. Alors d'autre part, j'ai pas suivi que Vipassana, moi j'ai même travaillé chez les chrétiens. J'ai pratiqué donc pendant 2 ans l'hindouisme et ils disent à peu près la même chose que vous. Il n'y a pas de question de moralité dans l'hindouisme Advaita, non-dualité. Mmh. Et eux, ils parlent aussi du bout du chemin parce que la question principale c'est qui ? Qui suis-je ? Même qui médite ? Oui. Et donc le zen lui ne t'accroche pas et l'hindouisme Advaita revient à l'origine de la pensée. C'est-à-dire, qui insuffle le monde que je vois en face de moi ?
Oui, bon, mais il y a une grande différence. Vous dites à la fin, qui souffle la vérité ? Bon, évidemment, on sait qui. Oui, dans l'hindouisme, c'est l'atman, non ?
Et oui, c'est une zone qui ne bouge pas trop, quoi.
Oui, nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on n'est pas du tout comme l'hindouisme dans ce sens-là. Et ils regardent l'atman. Et puis nous, on ne regarde pas l'atman. Mais, et puis pour revenir à ce que tu disais avant, oui, c'est pas différent. Nous aussi, on se débarrasse de toutes ces choses que tu as mentionnées. Mais on ne les sépare pas pour les débarrasser. Il n'y a plus cette étape. Quand je dis étape, je ne veux pas dire qu'on est supérieur à la Vipassana. Je ne connais que le Zen. Alors, je ne connais pas la Vipassana, je ne connais pas l'hindouisme. Je ne connais pas le christianisme, je ne connais que le Zen. Et ça, évidemment, de ma façon, ne peut pas être autrement. J'essaie de faire, en suivant Maître Deshimaran, que ça ne soit pas ma façon, mais la façon. Alors la façon, c'est pas l'étape.
Droit au but.
Oui, que ça. Alors, on est là et on a 10 000 choses, 10 000 problèmes. Mais... on comprend petit à petit, puisqu'on est forcé à le comprendre, on est en haut et on ne te donne rien comme règle. Seulement comment entrer dans le dojo sans faire gâchot et s'asseoir. Mais après ça, vous vous démerdez. Mais vous êtes assis là-bas, et là-haut, en haut, et il y a un moment que vous comprenez, et ce n'est pas par l'intellect, l'ensemble de toutes choses. Le fait qu'on n'est pas seulement frère, mais on est pareil, on est plus que frère. On est avec toi, Louis, avec toi, Luc, on est plus que frère. Et ça, ça fait que toutes ces choses qu'on parle séparément passent au même moment. Et passent au même moment tout le temps. Et il faut tout le temps, c'est pas une fois. Il faut tout le temps que ça passe. Chaque fois que tu te mets en posture de zazen, tu es débutant. Tu es débutant, sauf si tu es orgueilleux, plein de toi, alors toi, tu es mal barré. Hein. Mais si tu commences, tu as fait 20 ans, 30 ans, ça se voit, mais tu es débutant. Ah, là, ça c'est la sagesse, peut-être, de haut de la montagne.
Je vous propose maintenant de nous mettre dans le bain d'une séance de zen avec Anna Shiugu, chantée par les moines zen tous les matins lors des séances de méditation.